Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire. Avec la cage dorée de la critique où ont pris place Olivia de Lamberterie, duel Nelly Capriélian des Inrecuptibles, Frédéric Becbédé du Figaro Magazine et Arnaud Vivian de Transfuge, de Regard et de la revue Charles. On parle ce soir des romans de Camilla Läckberg, William Boyd, Maria Pourchet, mais également des livres de Françoise Nyssen et de Martine de Rabaudy. Dans le courrier très féministe de la semaine, Jean Chavet qui habite Bruxelles, père divorcé, je vais voir mes filles à Bruxelles tous les 15 jours avec ma compagne et notre rituel de retour est de vous écouter en roulant vers Paris. C'est toujours un plaisir d'avoir l'impression que vous faites partie de la famille. Ce qui m'amène à réagir est le passage du masque sur le livre de Chloé Delhomme, mes bien chères sœurs. Au seuil, après les commentaires des femmes, les hommes ont pris la parole et le commentaire sur ce livre s'est conclu par la parole de deux hommes. Il est grand temps pour nous, les couillidés, de nous taire et d'écouter sur les violences faites aux femmes. Si nous ne sommes pas tous coupables, nous avons tous un devoir commun, nous taire. Maintenant, tu sais, Arnaud, ce qui te reste à faire. Dans la même émission et sur le même livre, Sophie Lémaud s'en prend aux critiques hommes dont j'ai oublié le nom, je ne sais pas moi-même qui c'était. Après la chronique enthousiaste et de qualité de ses consoeurs, la blague « J'ai un trou » alors qu'on parle de femme est indigne d'un homme de lettres et nous insulte toutes pour sa gouverne. Le sexe féminin ne se réduit pas à un trou mais possède des proéminences flamboyantes. J'aime beaucoup le flamboyant. Lucie Rocha nous écrit vos chroniqueuses ont fait l'éloge du dernier livre de Chloé Delhomme. On ne peut que s'incliner devant la froide réalité des chiffres des violences faites aux femmes, mais quand à la fin du livre, l'auteur parle de s'approprier un langage, mais qu'il n'est question que de concepts importés des États-Unis, on se dit que Chloé Delhomme pourrait elle aussi questionner la singularité de la sexualité à la française et prendre la tête d'un mouvement original plutôt que de nous enjoindre de consommer du McDo féministe. À propos de « À jeter sans ouvrir » de Vive Albertine, c'était chez Buchet-Chastel. Jean Braghini nous écrire « Cher Max, cher Pluche, vous avez montré votre connaissance du mouvement punk, notamment grâce à Arnaud, et recommandé la lecture de Vive Albertine, qui fut quelqu'un sur la scène punk dans un groupe baptisé The Slits, en bon français, les Fentes. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi aucun de vos brillants exégètes n'a évoqué le punkissime City on Fire de Garth Albert, qui avait paru chez Plon en 2016. Vous l'aviez lu, hein, les uns les autres. Il s'agit d'autre chose quand même que les souvenirs cocaïnés de Miss Tampax. Daniel Michel. Mais non, mais ça, c'est parce qu'elle s'en affuble volontiers. Daniel Michel, d'Épizy en Seine-et-Marne, ajoute, si vraiment la saga punk vous intéresse, je vous conseille trois livres. Please Kill Me aux éditions Alia.
Ça, c'est génial.
C'est vrai. Génial. Ah, oui, c'est meilleur génial. Livre sur le punk.
Le meilleur livre sur le punk.
Ouais. Au-delà de la nudée de Philippe Marcadet, chez Scali, et de Ralph Marceau, résistance à l'effacement aux presses du réel. Nathan de Arriba Cellier tient à nous faire part de sa stupeur. J'ai entendu en podcastant l'émission depuis la Caroline du Nord où je réside que Frédéric Becbédé et Olivia de Lamberterie, j'ai entendu dire à propos du livre d'Orhan Pamuk qu'il n'y avait pas de roue en Turquie. Je suggère donc un voyage initiatique à ces chroniqueurs afin de leur permettre de découvrir que le monde ne correspond pas tout à fait aux clichés welbeckiens qu'ils s'en font. Le peuple turc est composé d'une mosaïque d'ethnies et il n'est pas rare de trouver des femmes turques rousses. Voilà, Frédéric.
Non, mais on n'a pas dit qu'il n'y en avait pas.
Enfin, une lettre troublante. Lettre troublante. pour finir, signé Maria Dessica Suarella, qui habite la Corse. Cher masque, dimanche 20h, c'est l'heure à laquelle depuis 15 ans, mon amant me quitte pour rejoindre sa femme en me disant « Je te laisse écouter le masque et la plume ». Et il s'en va, les couilles légères et l'âme en paix. Il ne se doute pas que je me réjouis de me retrouver seul avec toi. Cher masque, humour, intelligence, impertinence, un grand plat de spaghettis et j'oublie pour un instant l'égoïsme et la lâcheté des hommes. Tu vois, cher masque, notre liaison est la consolation de mes dimanches soirs. Merci pour ces moments. Moi, ce qui est bien, c'est que je découvre quand même toutes les semaines les vertus de cette émission.
Voilà. Génial, cette lettre.
Elle est belle, hein ?
Ah oui, on l'embrasse.
Elle est signée, si tu veux la garder. Il y a tout, il y a l'adresse. Voilà. Enfin, c'est plutôt, on va peut-être plutôt la filer à un homme. Alors, on va commencer tout de suite avec La Cage Dorée, tiens, chez Actes Sud. Traduit du suédois par Rémi Cassen, c'est le nouveau roman de Camilla Läckberg. La reine du polar nordique, dont l'affolant compteur affiche plus de 23 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Vous réalisez un peu ce que ça veut dire, ça ?
Non. Ça laisse rêveur et jaloux.
Oui. Et La Cage Dorée, c'est un thriller conjugal, justement, à vocation féministe et même revancharde. Revanche, d'ailleurs, c'est le nom de la ligne de cosmétiques que lance Faye Adelem après avoir été trompée, malmenée, humiliée par son mari Jack, qui est un coureur de jupons, à qui elle a tout sacrifié, y compris sa carrière. Et c'est comme un écho violent à son enfance, puisque Faye a été battue par un père si violent qu'il a même poussé son fils au suicide. Le livre se déroule dans les milieux d'affaires de Stockholm et montre comment la vengeance de Faye va être impitoyable. Il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien. Voilà, c'est le premier volet d'un diptyque dont d'ailleurs Camilla Läckberg répète volontiers qu'elle l'a écrit juste avant le mouvement MeToo, pour ceux qui pourraient s'y tromper. Olivia ?
Ah ben c'est... Au début, ça commence comme Mary Gins Clark, j'ai trouvé. Une fille bien habillée, dans sa cuisine, se sert un verre de vin. Et si vous avez lu Mary Gins Clark, vous savez que les héroïnes de l'américaine se servent toujours le soir un petit verre de chardonnay, comme ça, dans leur cuisine. Alors là, on ne se mouche pas du pied. On voit très vite que chez ces gens-là, ils ont beaucoup de moyens parce que c'est une cuisine à 1 million de couronnes. Alors j'ai calculé ce que ça faisait. Ça fait 100 000 euros la cuisine.
C'est quand même plus chic en couronnes qu'en euros. Hein.
Une cuisine à 1 million de couronnes. Et puis après, elle va, l'héroïne, elle va garesser avec satisfaction le bureau de son mari. Et je me disais, qui dans la vraie vie va garesser avec satisfaction le bureau de son mari ?
C'est l'ancien bureau d'Ingmar Bergman.
Exactement, oui. Le bureau de Bergman. Et là, on se dit vraiment, ça va être Mary Gins Clark. Et puis la page d'après, elle va sur le bureau d'Ingmar Bergman, regarder dans l'ordinateur de son mari les films porno qu'il regarde. Et là, on se dit que Mary Gins Clark, elle en avalerait de travers son chardonnay, parce que c'est plus du tout sentimental. Et puis, le truc continue comme ça. Quand même, il se passe rien pendant 100 pages.
C'est très différent des anciens polars
qu'écrivait
Läckberg. Hein.
Il ne se passe absolument rien. C'est une sorte de roman un peu sentimental dans lequel...
Un peu de cul, quand même. Il y a un petit peu de sexe, quand même.
Peu de cul, mais enfin, pas beaucoup.
Beaucoup. Beaucoup de cul. Beaucoup de cul,
tu vois,
les 20 pages. Moi, j'ai avancé comme ça, j'ai l'impression que j'avais une carotte toutes les 20 pages. Je savais que j'avais à avoir une scène de cul.
Oui, t'as une petite scène comme ça, mais bon.
Je l'ai dit, sur que les garçons sont plus sensibles que les femmes.
Le modèle suédois en prend un grand coup parce que moi, je pensais que c'était le pays où les hommes étaient le plus progressistes du monde. Là, le mari de la dame qui est dans sa cuisine, il arrive le matin et il, sur le plan de travail en marbre à 1 million de couronnes, il lui dit « Est-ce que tu crois que quelqu'un a envie de prendre son petit déjeuner parce qu'elle n'a pas enlevé les miettes ?» On se demande un peu pourquoi elle reste avec ce gars-là. C'est un peu bizarre, c'est comme un nanar en fait. C'est pas très bien, mais on a quand même envie de continuer.
Arnaud ?
C'est un revenge porn littéraire. Le revenge porn, c'est quand vous balancez sur Internet des scènes intimes avec votre ex. Et là, c'est vraiment ça, c'est un revenge porn, c'est très cruel, hein. C'est un roman gynarchique aussi. La fin ne laisse aucun doute là-dessus sur le rôle des hommes qui doivent juste devenir des esclaves, y compris d'ailleurs des esclaves sexuels. C'est comme ça que ça se termine.
C'est vraiment, le premier tome. C'est le premier tome.
C'est le premier tome. Alors, parce que il y a quand même quelque chose de, c'est assez bien fichu, y compris avec cette carotte qui vous est tout le temps tendue d'une scène de sexe toutes les 20 pages. Donc ça commence avec un petit ami qu'elle va trucider et on n'en entendra plus jamais parler. C'est-à-dire que c'est comme si ça n'avait pas existé, cette scène, dans sa tête. Après, elle est soumise comme une tartiflette à ce type incroyable de vanité, de bêtise, de vulgarité. Et donc, il y a quelque chose d'incompréhensible dans le fonctionnement de cette femme, totalement.
Enfin, elle va quand même se venger.
Il y a un mystère donc sur qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, elle a tué ce type parce qu'il avait eu le malheur. Elle l'adorait, en plus, il était sympa. Et elle le tue comme ça parce qu'il a eu le malheur de lire son journal intime où elle racontait donc ce mystère d'enfance qui sera, si j'ai bien compris, la suite.
Voilà.
Un préquel, en fait, qui nous racontera l'enfance de cette héroïne. Évidemment, on voit bien l'idée, c'est la vengeance, ce sont des femmes qui se vengent parce que ça ne parle que de sexe et d'argent. Il y a une vision de l'humanité là qui se dégage, qui est quand même
assez incroyable. Comme dit Olivia, c'est pas l'image qu'on a vraiment de la Suède jusqu'à maintenant. Et voilà. Ça,
le sexe et l'argent.
Non, oui, c'est pas comme ça que je la voyais, la Suède.
Mais non, c'est assez.
Vous voyez, c'est un pays perturbant. Un pays égalitaire.
La manière, parce que c'est l'histoire de Bergman, ça revient. Après, elle dit le grand génie mâle qui manipulait et piétinait les femmes. Donc il y a vraiment là, on est de l'or. Parce que vous imaginez, vous attaquez à Bergman en Suède. Je pense qu'il y a dû y avoir. Et elle s'attaque aussi à un ouf. Landel, qui est, genre, j'ai fait des recherches sur Ouf Landel, qui est une sorte de Bob Dylan suédois, très très connu évidemment là-bas, qui est à la fois chanteur mais aussi écrivain, qui était alcoolique, qui s'est marié, remarié 4 fois, et donc c'est le ringard. On voit bien qu'il y a la volonté de piétiner des icônes masculines dans ce polar, l'air de rien, et de se venger de la masculinité.
Il me semble que Arnaud a davantage aimé que toi, oui. Nelly.
Alors, je n'avais jamais lu de Camilla Läckberg. À chaque fois qu'on m'en parlait, on me dit, enfin,
on parlait que de chiffres.
On parlait que de chiffres.
Elle a
voilà,
vendu le reste, 30 millions.
Disait, c'est pas pour toi, laisse tomber, c'est avec un air de mépris. Donc, j'étais assez heureusement surprise sur les 100 premières pages. Moi, justement, où il se passe rien, où il se passe des scènes de sexe. Mais en tout cas, il y a une peinture d'un couple. Et je pense qu'il en existe beaucoup. Il y a un mystère, en effet. Elle est folle amoureuse de son mari, qui la méprise, qui la tient par l'argent, qui lui fait faire tout ce qu'il veut. D'ailleurs, il ne veut pas grand-chose d'elle. Il y a ce doute aussi de la femme mariée qui, à un moment donné, commence à avoir 32 ans et c'est trop vieux pour le mari. Parce que Olivia, quand tu dis qu'elle découvre des sites porno sur l'ordinateur de son mari, c'est que des sites sur des petites filles, des très jeunes filles, etc. Donc tous ces doutes d'une femme qui subit le regard masculin, ou à 32 ans elle est déjà trop vieille, ou il faut qu'elle tienne son intérieur, ou il ne faut surtout pas qu'elle montre qu'elle est trop intelligente, je pense que ça existe, même aujourd'hui, en Suède ou ailleurs, et je trouve que cette peinture-là de ce couple de grands bourgeois richissimes est absolument réussie. Ensuite, pour le reste, moi je me suis demandé en effet, parce que donc, comme je disais, je n'ai pas lu ses précédents. Est-ce qu'elle a toujours été féministe? Est-ce que c'est une opportuniste? Est-ce que tout d'un coup,
dans les entretiens, elle dit que c'est récent, hein, ce féminisme-là.
C'est récent. Bon,
et que c'est
pas.
Encore.
Alors, apparemment,
moi,
il y a beaucoup de femmes autour
limité.
De moi qui me disent que grâce à MeToo, juste avant MeToo, elles ont commencé à prendre conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans leur profession ou dans la vie. Bon, moi, je trouve ça un peu tard, mais pourquoi pas? Tant mieux que ça arrive. Mais je trouve que la façon dont elle en fait un enjeu, ce féminisme, qui est en effet rageur, qui est en effet vengeur, qui est en effet, meurtrier ou en tout cas criminel par certains côtés, je trouve qu'elle le justifie en dressant une espèce de catalogue de tous les maux que certains hommes ont pu accomplir. C'est-à-dire, tout d'un coup, le mari devient tout. Enfin, c'est-à-dire, il est à la fois violeur, il est à la fois trompeur, il est à la fois traître.
C'est une grosse ordure, quoi.
Voilà, mais il a trop tout. Et à un moment donné, je trouve, il y a vraiment. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, tu t'attendais à ce que Camilla Läckberg soit Flaubert, donc je peux pas non plus être déçue. Mais j'étais tellement prise par les 100 premières pages qu'après, j'ai trouvé ça caricatural et quasiment trop violent envers les hommes, mais de façon très mal faite. Voilà, très très mal faite. Oui. Il y a aucune finesse.
Frédéric.
Non, mais c'est terrible ce féminisme moralisateur où finalement elle est pour le rétablissement de la peine de mort pour adultère. Parce que c'est ça, le type a trompé sa femme, est-ce que ça mérite que qu'on l'assassine
Non, c'est pas pour ça. Parce qu'elle elle veut lui pardonner.
Un peu plus compliqué, parce qu'il l'oblige aussi à avorter. Il y a aussi toute une histoire là.
Non, surtout il la vire, c'est lui qui la met à la porte.
Il l'humilie depuis des années.
Alors on va laisser Frédéric aller jusqu'au bout de sa phrase.
Quand on lit ce roman, on se dit il faut absolument effacer son historique Google, parce que
il faut effacer son historique. Toujours,
surtout toi.
Effacer. Non, mais je veux dire, le type, il a rien fait de mal. Il a juste regardé adolescente russe brutalement pilonnée. Bon, voilà, c'est... bon, bref. Mais d'ailleurs, c'est le même fantasme que William Boyd dans le roman dont on va parler plus tard.
On va y venir après.
Mais non, je pense à ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce début, parce qu'on a un croisement assez inattendu entre l'œuvre de Bergman et le cinéma porno. Et ça, c'est vrai que quand tu regardes Scène de la vie conjugale ou Cri et chuchotement, c'était une dimension, la dimension complètement pornographique n'était pas encore totalement, elle était latente, disons, dans les scènes avec Liv Ullmann et tout ça. Tu attendais des trucs, puis ça n'arrivait que dans ton cerveau, en fait.
C'était un peu déceptif, oui.
Et pas de carotte, c'est ça que tu veux dire.
Pas de carotte, oui.
Je crois que l'ambition, c'est ça, c'est d'arriver à faire du Bergman X. Et de ce côté-là, c'est...
Ah, c'est pas mal du Bergmanisme.
C'est intéressant. C'est
Frédéric, ça va être pris en pub par l'éditeur, ça.
Oui, oui, voilà. Bah, donc, si vous avez envie un petit peu de Bergman porno. Mais sinon, non, je suis contre ce puritanisme des féministes, de certaines féministes, parce Dieu merci, il y a des féministes pro-sexe.
La Cage Dorée, vous écrivez directement à Frédéric. La Cage Dorée, c'est chez Actes Sud et c'est signé Camilla Läckberg. Justement, Frédéric, L'amour est aveugle, le 15e roman de William Boyd, l'auteur de Comme neige au soleil, et même d'un épisode dont on avait parlé au masque de James Bond, qui s'appelait Solo. Et là, c'est traduit aussi par Isabelle Perrin. Ça se passe, c'est pas la même époque que Läckberg, puisque c'est en 1894. Brody a l'oreille absolue, il est accordeur de piano à Édimbourg, il s'ennuie. Il supporte très mal, on le comprend, la tyrannie de son père qui est pasteur. Alors quand on lui propose d'exercer dans une filiale ses talents à Paris, eh bien notre jeune Écossais accepte et là il va rencontrer à Paris le vieux pianiste John Kilbaron, surnommé le Liszt irlandais, et en même temps que sa jeune maîtresse, une soprane russe qui s'appelle Lika Bloom, dont il tombe fou amoureux, et c'est réciproque. Donc l'accordeur, il va devoir accorder ses sentiments et son métier, et quand sa liaison avec Lika a été vantée par le frère de Kilbaron, eh bien Brody s'enfuit. Alors là, ça va de Nice à Genève, de Trieste à Vienne, on passe même par le Biarritz de Begbédé d'ailleurs à un moment donné, jusqu'à une île au large des côtes indiennes, qui est un gros roman, près de 500 pages, forcément très voyageur, itinérant, et beaucoup plus fleur bleue que je ne m'y serais attendu de la part de Monsieur Boyd, que je voyais plus sec et moins romantique que dans « Cet amour est aveugle ». Frédéric.
Il y a tout de même quelques scènes un petit peu chaudes aussi. Oui, un peu,
c'est gentiment. Relatif, gentiment.
Il y a moins de carottes.
Il y a une chose qui m'a surpris, c'est les petits seins lourds de Lika.
Pourquoi ?
Parce que soit tu as des petits seins, ils ne sont pas lourds, soit, s'ils sont lourds, c'est des gros seins. Mais les petits seins lourds, je manque d'expérience, mais j'ai jamais vu ça. Je suis désolé. Bon, enfin, bref, c'est un détail. Ce livre vient d'obtenir le prix Scott Fitzgerald, décerné par un très bon jury, dont je fais partie, avec un autre critique du masque, qui est Eric Neuhoff. C'est le retour de William Boyd au roman littéraire, après quelques thrillers, c'est vrai.
Mais t'es d'accord, c'est quand même beaucoup plus fleur bleue que ses livres précédents, que ses romans précédents.
C'est une histoire d'amour... il aime cette fille qui le trompe et s'en fiche un peu. Donc évidemment, c'est ça qui est intéressant. Et je dirais, autant Camilla Läckberg se place sous le parrainage de Bergman, là c'est Tchekhov qui est cité en épigraphe. C'est un livre où on voyage, où on rêve, où on...
Est-ce que tu as trouvé le passage sur Biarritz correspondant à la réalité?
Oui, on sent qu'il s'est documenté un peu aussi en allant sur Internet, un peu parfois, ouais. Mais j'aime beaucoup William Boyd, j'aimais beaucoup peut-être les premiers, Comme neige au soleil.
C'est formidable.
La confession de Nat Tate aussi. Il s'était mis à écrire le journal intime d'un personnage de fiction. Alors, tout ça, c'était peut-être d'un niveau supérieur, mais pour l'ensemble de son œuvre, évidemment, je suis très heureux qu'il ait eu ce prix.
Arnaud?
On peut imaginer ce livre écrit par Nabokov, ça serait un pur chef-d'œuvre. C'est très nabokovien d'ailleurs dans l'esprit, ne serait-ce que par cette itinérance qui est très nabokovienne en fait. Il y avait un très beau sujet qui est l'accordeur de piano. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une réflexion, mais qui n'est jamais aboutie, qui n'est jamais présente entre l'art et la technique. Parce que l'accordeur de piano, il aide l'artiste à vaincre sa difficulté à jouer, parce qu'il a des problèmes de main, etc. Et donc c'est l'accordeur de piano qui lui permet finalement de réaliser son art. Et on sent qu'il y a toute une dimension qui d'ailleurs porte sur la littérature. Qu'est-ce que c'est que la technique en littérature? On voit que William Boyle a beaucoup de technique. Là, c'est ce qu'il fait. Il fait montre de sa technique de romancier. Mais le problème, c'est qu'on s'en fout, quoi. On s'en fout de sa technique.
Mais on s'en fout complètement.
Mais complètement. Ouais, mais complètement. Mais on n'arrive pas du tout à s'intéresser à cette affaire parce que précisément, c'est ce qu'on voit, c'est la technique d'un romancier, mais en plus d'un romancier qui pastiche le roman du 19e, début du 20e siècle. Et donc, il y a une pesanteur dans tout ça, quand même, qui est au bout d'un moment insupportable pour le lecteur qui dit bon, c'est bon, là, laisse tomber, gars.
Puis il aurait peut-être pu trouver un meilleur titre que L'amour est aveugle. Nelly.
Oui, je remercie Arnaud d'avoir dit ça. J'avais peur au début quand tu commençais avec Nabokov. On avait eu le prix Fitzgerald, enfin que de grands noms pour un aussi petit roman. Moi, j'ai trouvé ça très très creux. Je trouve que c'est une pâle copie des romans du 18e. C'est du Canada Dry, c'est ce que le Canada Dry de notre enfance dans les années 70 était au whisky. Enfin, ça n'a ni odeur, ni saveur, ni rien. Je trouve l'écriture très très plate. Je trouve que c'est je ne comprends pas comment aujourd'hui on écrit ce livre, voilà, et je ne comprends pas non plus comment on a envie de le publier, et je ne comprends pas William Boyd.
Ah oui, tu vas très loin.
Moi
quand
aussi
même.
J'avais aimé les premiers William Boyd et je me suis arrêtée à Solo, que j'avais adoré. J'adore James Bond. Voilà,
James Bond.
Voilà. Bon, ça c'était un exercice, disons. Mais même ensuite le roman d'après, oh là là, pardon, je me rappelle plus, mais qui était aussi comme ça très classique, très romanesque, on va vous faire une grande saga pour l'été qui va se vendre comme des petits pains. Je trouve il y a aussi quelque chose d'opportuniste. Je ne le sens plus du tout sincère. Je le sens appliqué, pas sincère, et au fond, je trouve qu'il a rien à dire et qu'il est en train de se perdre en tant qu'écrivain.
Olivia ?
Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord.
Ah,
non, parce que je trouve que écrit par Nabokov, certes, cela serait mieux, mais écrit par n'importe quel écrivain aujourd'hui, ça serait pas bien. Et je trouve qu'il a une patte qui fait que effectivement, la manière dont tu le racontes, on n'en a rien à faire de cet accord de
Bah oui, mais c'est la vérité, hein.
Mais je trouve qu'il
c'est
a une espèce
d'amour qui compte.
Il a une espèce de façon de raconter ça, de manière à la fois ironique mais jamais cynique. Il est toujours un peu détaché de ce qu'il raconte. Il a une espèce de côté comme ça anglais. Je vous le raconte, je sais pas si j'y crois vraiment, mais il le fait extrêmement bien. Et tu citais ce passage d'accordeur de piano et de sa relation avec le pianiste pour lequel il va travailler. Et il lui dit, grâce à moi, je vais transformer votre instrument et jouer, ce sera comme des bulles de savon ou souffler sur un pissenlit. Et ben moi, j'ai eu l'impression que c'était ça. Ce livre, c'est une bulle de savon.
Et tu t'es
ça
pas
restera
du
pas.
Tout.
Il faut le lire vite, il écrit assez vite.
500 pages.
Oui, mais ça se lit très vite et très facilement.
Le début aussi sur le père est intéressant. Parce que
le début sur le père est vraiment bien.
Le père, mais oui, mais là aussi, on sent qu'il y a une idée. Le père qui fait des sermons entre la différence entre la morale et les moralisateurs, c'est pour être une belle idée, mais jamais il la poursuit.
Mais non, parce que justement, c'est ça qui est bien. C'est qu'on voit que le père le déteste. Et il dit, bah oui, il me déteste. Et bien d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'être chez soi? Ça veut dire qu'il faut en partir. Et hop, l'histoire est réglée.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Il choisit la tyrannie d'une femme pour remplacer la tyrannie du père.
Moi, je trouve que ça se tient, que c'est un très bon roman pour l'été.
Eh bien, c'est L'amour est aveugle, c'est au seuil et c'est signé William Boyd, Les Impatients chez Gallimard de Maria Pourchet, quelques mois après la parution de Toutes les femmes sauf une sur les joies et les déboires de la maternité. Eh bien, Maria Pourchet s'intéresse aux jeunes élites, un sujet que la sociologue a puisé dans les résultats d'enquêtes menées par, je cite, l'Observatoire, je ne savais pas que ça existait, l'Observatoire des gouvernances et des hauts dirigeants. Ça vous pose ça quand même, hein? Les héros du roman sont Rennes, 32 ans, issue d'HEC, qui a démissionné d'un poste enviable dans un groupe de cosmétiques, encore des cosmétiques, pour créer sa propre boîte. Et Étienne, son ami d'enfance, un énarque qui lorgne vers l'Élysée, mais qui pantoufle dans le privé. J'ajoute qu'elle est maquée avec un avocat fiscaliste et que sa rencontre avec un spécialiste des algues va changer sa vie. Vous saurez tout sur le monde des décideurs, le pouvoir, la com. Moi, j'ai trouvé ça à la fois cruel et cinglant, avec une phrase qui est peut-être ma préférée, c'est le tweet est à la pensée, ce que le paix est au système gastrique. Arnaud.
J'ai adoré ce livre, c'est un des meilleurs romans français que j'ai lu depuis ce début d'année.
Oui, la part en début d'année, et je dois, la vérité, je l'ai sauvée grâce à un grand portrait que tu as fait d'elle dans Transfuge.
Oui, je l'ai rendu très, c'est très intéressant parce qu'en fait, elle a travaillé pour cet observatoire, et donc on lui a demandé une étude sur ce qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire les gens qui sont nés avec Internet, qui ont donc à peu près aujourd'hui une trentaine d'années, qui ont développé cette culture.
Qui ne sont pas les amis de Bret Easton Ellis.
Et qui sont par ailleurs, et donc elle s'occupait de ceux qui sont devenus des hauts dirigeants, qui travaillent à des hauts postes. On n'est pas très loin du livre de Camilla Läckberg, sauf qu'elle part d'une véritable enquête sociologique. Il y a un roman là qui fait penser de manière très très différente, mais aux choses de Pérec, c'est-à-dire que c'est un regard sociologique. Ça fait penser aussi à certains livres de Houellebecq, d'une certaine manière, sur le travail. Donc elle a pris 3-4 personnages, dont ce personnage de femme qui est absolument extraordinaire, qui a donc
Reine.
Reine. Et il y a une drôlerie et une vision, parce que il s'agit quand même de décrire ces jeunes qui n'ont plus d'attache, qui sont complètement mondialisés, qui vivent donc avec leur smartphone, qui ont des idées d'entreprise. Mais ça va très vite chez eux. Ils se lassent très très vite de leurs propres idées, de leurs propres réussites. Il faut faire encore autre chose. Très vite, le temps passe vite. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique.
Olivia.
Moi, je trouve que ça marche 50 pages. 50 pages, vraiment, Arnaud a tout à fait raison. On est pris. Moi, c'est un milieu qui m'est assez étranger, donc j'avais l'impression de regarder des extraterrestres. Mais
ah, ils sont bizarres. Hein.
En même temps, qu'est-ce que tu apprends sur ce milieu, à part qu'ils sont cyniques, revenus de tout et prêts à tout, tu n'apprends pas grand-chose.
Tu t'es lassé au bout de 50 pages, tu es comme les impatients du livre.
Sans doute, voilà. Non, je me suis lassé pour des raisons très techniques. C'est que d'abord, elle ne reprend jamais sa respiration, elle est tout le temps sur la même ligne.
C'est un livre court, contrairement au Boyd. Hein.
Oui, mais alors, du coup, tu as l'impression que c'est très long, parce que il y a un problème de phrase, c'est-à-dire qu'elle essaye de faire beaucoup de style. Donc, il y a des inversions constantes de verbes et de sujets. Ça commence toujours par le verbe. Il faut après faire quasiment une étude grammaticale.
Exagère.
Pour trouver le sujet. Non. Je vous jure, j'ai pas le livre là.
Justement, elle écrit un français extrêmement rapide. Oh, c'est non, ça qui est beau.
Vous voyez, il y avait
un
jeu.
C'est un faux style.
Il y avait un jeu quand on était petit. Il y avait des lettres et puis on secouait. Je crois que ça s'appelait Boggle. Et puis on regardait les lettres tomber dans tous les sens.
Non,
là, elle secoue les mots. Ça tombe dans tous les sens. Il y a un sujet là. Le verbe là, elle mélange les pronoms personnels, c'est insupportable. Vous, elle, nous, on sait jamais.
Non. D'ailleurs, on comprend rien. Ouais.
C'est vraiment un truc pour faire du style.
Elle mène son lecteur ou sa lectrice à la schlag. Elle dit on va aller très très
et
vite, les gars.
Et en plus, il y a une espèce de déterminisme social insupportable. C'est-à-dire que elle est très méchante parce qu'elle avait une sœur handicapée. Lui, il est très méchant parce qu'il était rondouillard quand il était petit. Et tout le monde sait que les anciens gros, c'est les pires. Moi,
ça arrive,
mais alors non, peut-être qu'ils sont juste méchants parce qu'ils sont méchants et puis pas si malins que ça. Mais le côté, on va vous donner plein de raisons pour lesquelles ils sont insupportables.
Non, c'est pas vrai. Alors, c'est tout
moi,
sauf
j'ai
très
adoré le livre d'avant. Cette fille est très forte. Le livre d'avant qui n'était pas
femmes, sauf une.
Sur les joies de la maternité, mais qui était sur l'horreur de la maternité, c'était vraiment bien. Mais là, non.
Alors là, je suis pas du tout d'accord. Je n'avais jamais entendu parler de Maria Pourchet. Je me suis même dit, mais que fout ce livre au programme du masque?
Je viens de donner la raison.
Ah non, mais oui, je me suis dit, justement, s'il y est, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, donc il faudrait le lire avec attention. Le style est effectivement très surprenant. Elle invente quelque chose de staccato, de rythmé, d'inventif, de cruel, de très drôle. Qui est nouveau, mais vraiment
très,
nouveau.
Très, très drôle. C'est très moderne, ouais.
Elle invente.
Oh, mais c'est pas ça,
et
la
pourquoi,
modernité, attends, les gars.
Pourquoi est-ce qu'elle invente ce style-là? C'est parce que c'est le seul moyen de raconter notre époque. Parce que notre rythme de vie s'est encore accéléré. C'était déjà invivable il y a 20 ans. Mais avec le numérique, c'est devenu 1000 fois pire. Nous vivons à un rythme frénétique, hystérique et impossible.
Parle pour toi.
Le devoir d'un romancier, c'est de trouver une forme pour décrire son temps. Elle l'a trouvé, elle l'a fait. Cette fille est absolument excellente, elle est géniale. Et ce livre est fabuleux de bout en bout. Je peux vous lire des phrases que j'ai notées, juste pour dire à quel point Olivia se trompe. On tourne une page, on ne fait pas attention, on s'est pris 18 ans dans la vue. C'est ma life, ça. Ça, autre chose. Évidemment, Reine a un appartement, encore faut-il trouver le temps de s'y rendre. C'est génial, mais je m'identifie à cette reine. D'ailleurs, je vous demande de m'appeler Majesté.
On va t'appeler Roi.
Nelly. Roi.
Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec Olivia. Enfin, ce
c'est
livre...
intéressant de dire, les femmes n'aiment pas Maria Pourchaine.
Les femmes, elles sont jalouses. Elles sont jalouses.
Celui-là, je n'ai jamais lu d'autres livres de Maria Pourchaine. Je lirai le prochain pour voir si ça confirme ce que je pense aujourd'hui. Mais là, je trouve que c'est complètement fabriqué. Au contraire de Frédéric, quand j'ai vu qu'il était au programme du... j'ai lu les trois quarts...
Tu m'as demandé si...
Tu t'as envoyé un mail
si j'ai pas fait une erreur.
J'ai fait une erreur. Pourquoi je lis un livre qui est sorti en janvier pour le masque d'été? Et en plus, vraiment pas bon du tout. Alors, je t'ai envoyé un mail en disant, cher Jérôme, je crois que c'est une erreur, le Maria Pourchaine.
Est-ce qu'on a le droit de frapper, est-ce qu'on a le droit de frapper une femme en masque?
Non, j'appelle Camilla. Fais gaffe. Non, mais moi, je trouve qu'en plus, faire coïncider le fond et la forme, c'est totalement scolaire. On dirait un devoir de sociologue qui serait romancer la sociologie d'aujourd'hui.
Pas du
tout. Je suis pas sûre qu'ils vivent
là,
tous comme ça.
Non, là, tu parles d'Aurélien Bélanger.
Il n'y a aucune profondeur. Je trouve qu'il n'y a aucune subtilité. Je ne comprends rien aux personnages qui sont des espèces de d'ombres chinoises qui s'agitent dans tous les sens. C'est absolument pas incarné.
Et c'est ça, notre époque?
Je suis désolée. Notre époque, ça n'est pas ça. Il y a d'autres façons d'écrire notre époque. Là, c'est un devoir. Je pense qu'elle-même n'y est pas, n'y croit pas. Ça n'est pas un écrivain. Il n'y a pas de voix. Écrire très très vite, c'est même pas une écriture,
c'est tout le contraire, un artifice,
clivage très intéressant, un manque, c'est de propos,
elle a voulu l'écriture,
c'est trop intelligent,
en faisant une sorte de faux livre.
Nelly, trop intelligent. Nelly, prends ton sac, on s'en va.
Les impatients chez Gallimard de Maria Pourchaine, ben vous serez vous les lecteurs du côté des mecs ou des filles.
Fois que ça arrive, pardon, je crois, au masque.
Ah, c'est très clivé,
ce clivage,
là,
C'est bizarre.
Mais moi, j'en avais déjà lu avant même celui sur les
Peut-être qu'on va confier le clivage, d'ailleurs,
qui était très bien, hein,
à l'analyse de l'Observatoire des gouvernances et des hauts dirigeants.
C'est son quatrième roman. Champion était un autre roman formidable qu'elle avait écrit.
Ah oui, t'as lu tout pour chez.
Il y en avait un avec une soirée d'anniversaire qui était très, très drôle.
Mais oui,
Arnaud, hein, quand tu fais un portrait.
Non, mais moi, je suis vraiment épaté. Vraiment.
Ah ben, pour moi, c'est une des meilleures. Elle vient d'Épinal, comme Nicolas Mathieu. Ils étaient au lycée ensemble.
Oui, bon, ça, c'est pas un argument. Non, tout ce que tu veux, mais c'est pas un argument.
Il fait son Maria Pourchaine.
Allez,
tout le monde adore ce prix Goncourt. Tout le monde me dit, vous avez lu. Moi, j'ai adoré le prix Goncourt.
Bon.
Je sais pas autour de vous, mais tout le monde me parle en bien.
On avance, s'il vous plaît.
Si vous aimez Goncourt, vous aimerez Maria Pourchaine. Voilà.
Vous allez vous calmer un peu.
Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé le Goncourt.
Oh.
C'est pas du tout la même chose. C'est la même chose que Maria Pourchaine.
Je peux aller jusqu'au bout du titre. Plaisir et nécessité, le livre issu d'entretiens accordés à Laure Adler que publie Françoise Nyssen chez Stock, 7 mois après son départ de la rue de Valois, celle qui fut pendant 17 mois la ministre de la Culture d'Emmanuel Macron, a donc décidé de s'expliquer. Il n'y a pas beaucoup de piques, hein, sauf contre le Premier ministre, Édouard Philippe, à qui elle reproche son indifférence à la culture. Pas de règlement de compte, elle décrit plutôt son parcours, qui l'a mené de sa Belgique natale à la France, et des études de chimie aux éditions Actes Sud, fondées par son père en 1978 dans une bergerie d'un mât Cabarguet, sa rencontre avec son mari Jean-Paul Capitani, et puis le drame qui a changé leur vie, le suicide aux États-Unis de leur fils de 18 ans, Antoine. Antoine pour qui, d'ailleurs, Françoise Nyssen dit avoir accepté de relever le défi de la culture et de découvrir un monde politique dont elle ne connaît rien, ni les codes, ni les stratégies. Alors, on lui a fait beaucoup de reproches, hein, d'être mauvaise oratrice, de répéter « je réfléchis » quand on l'interrogeait sur France Inter, de pratiquer plus le yoga que les mondanités, d'avoir construit aussi des mezzanines dans les locaux d'Actes Sud. Mais elle a quand même, en tout cas dans ce livre, en défendant son bilan, imposé ses idées sur la démocratisation de la culture, et notamment la pratique artistique à l'école. Nelly.
Moi, je suis assez déçue par ce livre. En fait, je n'en vois pas vraiment la nécessité. En plus, je sais qu'il a été très
moqué. Ni le plaisir.
Ni le plaisir. Je sais qu'il a été très moqué ici, mais moi, j'avais adoré le Aurélie Filippetti, qui était un roman.
Non, il avait été défendu par certains.
Par certains, mais moqué par mon voisin, Frédéric. Non, moi, j'ai trouvé ce livre... Alors, j'adore Françoise Nyssen, c'est quelqu'un que je respecte, je l'ai respecté aussi en tant que ministre de la Culture. Actes Sud, bon, on est tous d'accord, c'est une très, très belle maison d'édition. D'où ma déception, d'autant plus, je trouve le style extrêmement plat.
Mais encore une fois, j'ai précisé, c'est issu d'entretiens.
Oui, avec ah oui, bah, oui, mais moi je me suis lancée dans le livre, je ne le savais pas, c'est pas non
si
plus
indiqué. Au début.
Oui, bah alors, écoutez, j'ai dû oublier en le lisant. Je pense qu'on fait pas alors un livre comme ça. Voilà, je pense que là, on a l'impression que c'est un programme politique qu'elle nous redéroule. On a l'impression qu'elle essaye de se justifier, qu'elle a vraiment tout bien fait et qu'elle avait des supers idées et qu'elle n'aurait pas dû partir aussi, enfin, de cette façon et aussi vite. Cela dit, son programme, je suis assez d'accord avec elle, le pass culture pour tous, emmener les pièces du français en province, oui, que de plus en plus de gens aient accès à la culture soit enseignée et que des artistes aillent visiter des écoles chez les tout-petits et que tout d'emblée, ils aient accès à la culture. Oui, bien sûr, on est d'accord. Et je trouve la façon dont elle raconte tout ça est extrêmement plat. Je trouve ça très langue de bois. Macron est absolument formidable toujours. Brigitte Macron
pas,
adore
pas
les
Edouard
enfants.
Philippe, encore une fois.
Et pas Edouard Philippe, c'est le seul qui... Voilà. Alors, elle pointe comme... donc là, je commençais en disant qu'il y a peut-être que dans le roman qu'on peut vraiment aller... ne pas être langue de bois comme l'Aurélie Filippetti, les idéaux, où elle racontait son...
Qui était très violent, hein.
Qui était très violent, mais
qui n'était pas un récit autobiographique. Attention, c'était un roman, les Filippetti.
Oui, c'est un roman, mais quand même autour d'une femme qui avait été ministre de la Culture à un moment donné. Enfin, la narratrice était ministre
de la Culture. Et qui balançait pas mal.
Et qui balançait énormément. Mais elle balançait, et là où elle se retrouve, ce qui est intéressant, et je pense que si le gouvernement entendait quelque chose, eh bien, il entendrait peut-être cela, c'est-à-dire, elle balance toutes les deux que le président, à un moment donné, elles y ont très peu accès parce qu'ils n'ont entouré que des narques. Et pour elle, qui dit énarque, c'est des personnes qui n'ont plus non plus vraiment de connexion avec les gens.
Mais pardon, mais ça,
c'est
une banalité, ça, tu vois.
Non, bah écoute, non. Est-ce que François Mitterrand était enterré que d'énarque? Je pense que ça fait partie des, disons, ce qui s'est produit depuis 15 ans.
Je pense que les conseillers sont tous issus des grandes écoles.
Que des énarques.
Enfin, je sais pas, mais depuis toujours.
En tout cas, ce qu'elles montrent toutes les deux, c'est que là, il y a un problème et qu'il faudrait qu'ils aient aussi d'autres conseillers. Parce que là, on a l'impression dans les deux livres, il y a une espèce de muraille opaque et ouatée autour d'eux qui, au fond, les isole complètement, les présidents. Voilà, donc non, pour moi, c'est un exercice assez inintéressant, en fait.
Frédéric ?
Alors, on ne va pas refaire le débat sur Aurélie Filippetti, mais j'avais reconnu que dans son roman, les passages les plus intéressants étaient ceux où elle critiquait, où elle faisait un peu... elle racontait son expérience et son impuissance au pouvoir. C'est exactement ce qu'on attendait de Françoise Nyssen, puisque moi, j'ai trouvé que c'était une idée géniale de la nommer la patronne d'Actes Sud, ministre de la Culture. Tout le monde était assez excité, on se disait « qu'est-ce qui va se passer ?» Je pensais que ce livre serait un pamphlet acerbe sur l'expérience super violente qu'on lui a fait vivre. Parce que elle a été maltraitée, elle a été blessée sans doute, virée très tôt, elle s'est aperçue qu'elle pouvait rien faire. C'est ça qu'on voulait savoir, on voulait un récit là-dessus. Or, tu as tout à fait raison, c'est un robinet d'eau tiède. Elle critique rien à peine, elle essaye de s'auto-justifier tout le temps. C'est insipide, je comprends pas du tout.
Il faudrait qu'elle critique la presse. Moi, il y a eu deux fois où il y a des pics.
Et c'est à cause de l'histoire des mezzanines, ça, essentiellement.
Et Benalla aussi, quand elle dit c'est une injustice pour défendre Macron, elle dit c'est une injustice que Le Monde consacre deux pages à l'affaire Benalla, c'est beaucoup trop, montrant que la presse est partiale. Je trouve que c'est pas bien venant de quelqu'un qui a été au ministère.
Alors il y a un chapitre, qui est le chapitre 12, qui est consacré au suicide de son fils, où là le ton change totalement, bien entendu, et là ça devient extrêmement touchant, personnel, sincère, et évidemment on ne peut que respecter. Mais autrement, le livre, on a l'impression effectivement
son fils
de...
qui avait laissé ce mot à ses parents, Antoine, peu importe l'endroit où je me trouve, la seule chose qui compte, c'est que vous soyez heureux et que vous fassiez ce que vous aimez. Voilà.
Non, c'est très beau. Il y a aussi une lettre de son père, Hubert Nyssen, à sa petite fille, qui est très belle. À part ça, je regrette parce que c'est un grand éditeur, mais c'est pas un grand écrivain.
Olivia.
Mais c'était presque un mystère de savoir comment cette femme qu'on aime tous, qui est si brillante, si intelligente,
et si peu politique,
a tellement échoué. Et je trouve que le livre est tout à fait une réponse intéressante, parce que c'est un livre... Moi, il y a toute une partie que je trouve passionnante, c'est là où elle se raconte, quand elle raconte son parcours, quand elle raconte ses relations avec son père, qui était un homme très distant, très froid, quand elle raconte comment ses parents ont réussi une famille recomposée absolument modèle. Il y a quand même un truc fou, c'est que sa propre mère, qui était sage-femme, a accouché les enfants de son ancien mari avec sa nouvelle femme. C'est quand même assez peu banal. Elle raconte comment elle est devenue éditrice presque par hasard et comment son père était extrêmement dur avec elle. Et puis, effectivement, il y a ce chapitre sur son fils qui est complètement sidérant, où elle raconte que comme un animal, elle se met à se rouler par terre, et c'est vraiment bouleversant. Après, tout ce qui est dit sur l'exercice politique est confondant de naïveté, moi, je trouve.
Mais quand elle dit je roulais, par exemple, j'avais fait le choix de rouler dans une petite Zoé électrique, et personne ne voulait croire que c'était la voiture du ministre.
C'est un livre qui lui ressemble dans une femme qui prend les choses extrêmement à cœur, mais qui était pas bonne en com et qui découvre qu'en politique, eh ben, parfois, la com vaut plus que le fond. C'est un livre qui explique quand même qu'elle a été la proie de beaucoup de misogynie. Et quand elle attaque la presse, elle a raison, parce que l'article qui avait été écrit par Anna Cabana dans le journal du dimanche, qui s'appelait « La tragédie nicéenne », était vraiment un article à charge, je trouve, extrêmement misogyne.
Moi, je parlais pas de cela, tu parlais du canard enchaîné sur les médias.
Et puis, elle explique aussi comme elle était vraiment pas du tout préparée, comme elle ne connaissait aucun code politique. Il y a un truc qui est fou, elle dit qu'elle ne savait même pas qu'il fallait faire un discours quand elle prenait ses fonctions. Mais même moi, je ne connais rien à la politique.
Elle a très bien préparé celui de son départ.
Oui, de sortie. Mais je trouve que c'est un
livre. Pourquoi a-t-elle accepté ? Elle ne dit pas pourquoi elle a accepté d'être nommée ministre de la Culture.
Elle dit parce que Nicolas Hulot y a été et que du coup, elle s'est dit, j'y vais aussi.
Qu'en pense le patron de la revue politique et littéraire Charles ?
C'est vraiment dommage que ce livre n'aille pas vraiment dans la vérité, tout simplement, dans la vérité. La vérité, c'est quoi ? On la connaît finalement tous. C'est que elle a été manipulée dans cette histoire. Elle a été totalement manipulée. D'ailleurs, on sait que le premier choix d'Emmanuel Macron, c'était Leïla Slimani. C'était pas du tout...
Prix Goncourt, romancière.
Voilà. Et donc, il l'a proposé d'abord à Leïla Slimani, qui a refusé. Et après, en second choix, il y a eu Françoise Nyssen. Tout le monde le sait à Paris. Tout le monde... D'ailleurs, Leïla Slimani l'a raconté dans les journaux. C'est pas du je n'invente rien du tout. Donc, elle a été manipulée, elle a accepté. Alors, effectivement, avec une naïveté totalement confondante par rapport au code. Mais même, comment dire, une absence totale de politique. À un moment, elle écrit cette phrase, ou plutôt, elle dit cette phrase, parce que c'est vraiment le livre magnétophone dans toute sa splendeur. Elle dit « Je me suis toujours senti proche de la gauche ». Vous imaginez, quand même. Proche de la gauche, ça veut dire à droite, donc. Ah oui. Vous êtes proche de la gauche, c'est que vous êtes à droite, je veux dire, il y a un moment. C'est ça, cette naïveté politique. Alors, on comprend bien que la seule chose qui intéressait Édouard Philippe, le Premier ministre, c'était la réforme de l'audiovisuel public. Ça tombe bien, je veux dire, vous voyez ce qui est en train de se passer. Vous savez, auditrice de France Inter, qu'il y a quelques mouvements de grève contre cette réforme de l'audiovisuel public. Mais donc, il a fallu qu'il place un homme à lui, Franck Riester, le nouveau ministre de la Culture, pour que cette réforme soit réellement engagée. Il ne se voyait pas la faire mener, la bataille, par Françoise Nyssen. Donc, voilà ce qui s'est passé. C'est ça, la réalité. Elle pourrait le dire. Rien de scandaleux à dire la vérité. C'est quand même grave de... continuer à faire un livre qui reproduit de la langue de bois qu'elle a tenue lorsqu'elle était au ministère.
Plaisir et nécessité, c'est chez Stock et c'est signé Françoise Nyssen plus rapidement à l'absente de Martine de Rabaudy qu'on avait déjà conseillé Olivia à la fin d'un masque chez Gallimard. L'absente, c'est Florence, fille unique de Clara et d'André Malraux, qui est morte le 31 octobre dernier, terrassée par l'effrayante maladie de Charcot. Elle avait 85 ans. À la fin, d'ailleurs, elle ne pesait plus que 32 kilos. Toute sa vie, Florence Malraux avait été très discrète sur son père, sur sa mère, sur elle-même. Même quand son père était entré au Panthéon en 96, ça le raconte, elle avait choisi le silence. Donc, pas de témoignage, pas d'interview. Et c'est donc à la toute fin qu'elle a choisi de se confier à Martine de Rabaudy. Elle raconte, par exemple, la colère du ministre de la Culture du général de Gaulle. Lorsqu'il a appris que sa fille avait signé en 60 le manifeste des 121, c'est-à-dire l'appel à l'insoumission des appelés d'Algérie. Elle était née en 33, Florence Malraux, elle avait été la plus proche amie de la jeune Françoise Sagan, l'épouse d'Alain Resnais, la collaboratrice de Lauzet, de Truffaut, de Cavalier, et même la fille chérie qu'Hemingway rêvait d'adopter. Et dans les mails qu'elle adressait à Martine de Rabaudy, Florence signait la mouette muette. Mais là, évidemment, elle est plus loquace que jamais avant de disparaître à l'absence Arnaud.
C'est un portrait magnifique. J'ai eu la chance de pouvoir creuser Florence Malraux à la fois au prix novembre puis au prix décembre pendant des années. C'était une femme d'une élégance, d'un humour délicat, toujours formidable, qu'on retrouve totalement dans ce livre, où il y a, parce que enfermé dans cette maladie de Charcot qu'on avait déjà lu sous la plume de Frédéric Badré, qui en est décédé, grand écrivain,
et de la grande santé, et de Mathieu Gallet dans son journal,
et de Mathieu Gallet aussi
à la toute fin, il raconte
c'est la maladie, sans doute une des maladies les plus horribles qui soit, d'être enfermé dans son propre corps, avec une pensée totalement...
Sans pouvoir respirer.
Sans pouvoir respirer, avec de la bave qui coule tout le temps, elle raconte, là, c'est... Et donc, et en même temps, gardant donc cet humour, oui, c'est, qui n'est pas du tout la politesse du désespoir. Et puis, il y a tout ce rapport avec son père, évidemment, qui est là en filigrane, qui est très très important, parce que c'est une grande littéraire, finalement, elle adorait la littérature, et évidemment aussi le cinéma, sa culture était gigantesque. Non, c'est vraiment un beau livre.
Frédéric.
J'ai beaucoup aimé, ça a beaucoup de charme, ça ressemble à Florence Malraux, et qui était le sosie de Sagan, et ça ressemble aussi à Martine de Rabaudy, qui, il faut le dire, fut l'organisatrice un peu du Masque et la Plume quand moi j'y ai démarré dans les années 90.
C'était la collaboratrice depuis François-Régis Bastide, voilà, jusqu'à ton
centre. Et c'est vrai que ce livre, elles se ressemblent aussi toutes les deux, parce qu'il y a cette pudeur élégante, ce sont des chics personnes, et ça montre non seulement une histoire d'amitié, mais une histoire d'une époque. Elle a écrit aussi un livre sur Bernard Franck, il y a toute cette bande qui passe, des scènes qui sont dans le Midi.
Où Florence passait beaucoup de temps à la gare de Fresnel.
Il y a l'adresse personnelle de Nabokov à New York, si vous voulez, je peux vous la donner, 450 West 20th Street. Et moi, c'est tout ce que j'aime dans ce genre de livre, de récit intime, c'est ce genre de détails.
Nelly.
Oui, j'ai adoré. J'ai adoré. Alors moi, je connaissais pas, contrairement à Arnaud, j'ai pas eu la chance de croiser Florence Malraux, mais je sais que pendant toutes ces années, dès que quelqu'un m'en parlait, c'était toujours avec des trémolos dans la voix. Quoi. Elle charmait les gens l'aimaient beaucoup, ils la trouvaient très drôle.
Mais elle charmait, juste. Y compris pour ça, parce que moi je l'ai bien connue aussi, y compris pour sa pudeur incroyable, d'où l'émotion qu'on a à la voir être si libre de ses souvenirs et de sa parole dans ce livre.
Et j'ai trouvé ce livre très juste. Elle n'essaye pas d'en faire une biographie, elle n'essaye pas d'en faire un roman. Enfin, elle raconte comme ça par bribes justement une amie, Martine de Rabaudy, qui disparaît peu à peu. Hemingway, tout ça, il y a quelque chose de Sagan aussi, en effet, dans son humour, à Florence Malraux. Et moi, ce que je ne savais pas, parce que là, justement, on parle de son rapport avec son père, c'est à quel point Malraux n'était pas tellement câlin. Enfin, c'était assez froid, quand même.
Ça pouvait se deviner, quand même.
Oui, sans doute.
C'est-à-dire que la mère Clara, c'était pas non plus facile.
Et Sagan, elle ressemblait à Sagan sans l'alcool et la drogue.
Mais elle ressemblait physiquement à
Elle ressemblait physiquement, mais sans l'autodestruction. Et on peut comprendre quand on connaît l'état dans lequel était son papa.
Olivia, tu as déjà beaucoup parlé de Florence aussi.
Florence. Il y a un mot délicieux avec Sagan. Elle retrouve un jour dans un tiroir une lettre que Sagan lui a adressée, où Sagan dit à Florence Malraux, il y a tellement longtemps que je ne t'ai vue que je ne sais plus qui je suis, ce qui montre bien leur relation. Ce qui est extraordinaire, c'est comment est-ce qu'on peut survivre à un père génial et une mère très originale, puisque la mère, elle raconte une anecdote, elle est adolescente et sa mère hurle dans l'appartement, Florence, j'ai eu combien d'amants? Et Florence répond, 25, mais chut, je lis, ce qui est quand même génial, parce que la lecture était la passion de sa vie. Et puis cette anecdote avec Malraux, terrible, pas du tout tendre, Malraux, comme tu dis, qui lui dit « Il faut que tu saches, tous les hommes qui te feront la cour, ce sera pour me rencontrer. » Et là, elle répond « Peut-être aurais-je un peu de charme ?» Et Malraux répond « Oui, c'est possible. » On voit qu'elle a toujours été finalement fidèle à la petite fille qu'elle était, dont les professeurs de maternelle disaient « Joyeuse, intrépide, très courageuse quand elle tombe. »
Quand elle tombe. Elle le prouve dans ce beau livre de Martine de Rabaudy, et c'est à l'absente qui paraît chez Gallimard. Voilà, le temps est venu des conseils, et on va commencer avec Nelly.
Moi, j'ai découvert et beaucoup aimé le livre d'Adrien Bosque et Olivier Assayas, et aussi de Jacques Rémy, le père d'Olivier Assayas, et de German Krull, la photographe allemande, qui s'appelle Marseille-Rio 1941, un voyage aux éditions Stock, et qui est une sorte de...
Mais c'était
de
pas livre le thème du roman d'Adrien Bosque?
Absolument, c'était le thème du roman d'Adrien Bosque, qui s'appelait, son deuxième roman qui s'appelait Capitaine, qui reconstituait la traversée du capitaine Paul Lemerle, ce paquebot qui allait de Marseille en Guyane, en Martinique, emmener André Breton, Claude Lévi-Strauss, et dans et Germaine Krull, alors ça je ne savais, voilà, Germaine Krull était là, Anne Segers, etc. Et il y avait aussi le père d'Olivier Assayas. Assayas. Jacques Rémy, Raymond Assayas, qui est devenu Jacques Rémy, son nom de cinéaste, qui a fait le voyage très proche de Germaine Krull, et tous les deux ont écrit des reportages sur le bagne en Guyane, sur l'arrivée en Martinique, etc. Et c'est absolument, ce dialogue entre les morts et les vivants, c'est absolument magnifique.
Et c'est chez
Stock.
Stock, le conseil de Frédéric.
Toujours aussi pareil dans le name dropping, ça s'appelle DV de Diana Vreeland.
C'est génial. Ah oui.
Les mémoires de Diana Vreeland chez Séguier, qui est donc là aussi, comme Françoise Nyssen, ce sont des entretiens, mais pour le coup avec George Plimpton, le fondateur de la Paris Review, et lui il disait toujours, quand je retranscris les propos, je garde seulement ce qui n'est pas ennuyeux. C'est peut-être une bonne méthode. En tout cas, il y a des phrases démentes. La vulgarité est un ingrédient indispensable dans la vie. Ce qui est intolérable n'est pas le mauvais goût, c'est l'absence de goût. Et puis, bien sûr, une phrase qui, je crois, résume la pensée profonde de Diana Vreeland, donc, qui a dirigé Harper's Bazaar, puis Vogue, des années 30 à 60, aux États-Unis, donc quelqu'un de très très important. Elle disait, le bikini est la découverte la plus importante depuis l'invention de la bombe atomique.
Et ça, c'est chez
Séguier.
Séguier. Mon conseil, c'est une nouvelle édition. Il y en a eu beaucoup, de la correspondance que j'adore entre Monet et Clémenceau, même s'il y a beaucoup plus de lettres du Père de la Victoire que du peintre des Nymphéas, parce que pour moi, c'est une des plus belles chroniques de l'amitié qu'on puisse lire et qu'on peut très bien résumer avec ces mots adressés en avril 1922 par Clémenceau à Monet. Je vous aime parce que vous êtes vous. Et que vous m'avez appris à comprendre la lumière, vous m'avez ainsi augmenté, peignez toujours, jusqu'à ce que la toile en crève. Mes yeux ont besoin de votre couleur, et mon cœur est heureux de vous. Ça reparaît aux éditions de la Réunion des musées nationaux, et c'est vrai que quand on lit cette correspondance, et surtout les lettres de Clémenceau, on se dit que les hommes politiques ont bien changé depuis cette époque. Olivia.
Un homme à sa fenêtre, de David Thomas, chez Anne Carrière. David Thomas écrit des micro-fictions, ce sont vraiment des nouvelles d'une page ou deux pages, qui comptent des petits moments de la vie. Donc c'est par exemple un couple dont le bébé n'arrive pas à dormir, qui va voir un pédiatre, une sorte de décalque d'Aldo Nauri qui leur dit « donnez-lui une banane, on va comprendre ». Après, c'est une femme qui se demande s'il faut mieux vivre avec un emmerdeur ou s'emmerder dans son couple, vaste question. Et c'est un écrivain dont les livres ne se vendent pas, qui s'interroge et qui se demande finalement est-ce que c'est grave. Et je trouve que au travers de ces nouvelles qui sont très drôles et très acides, c'est une sorte de traité de résistance contre la vulgarité, justement, contre le succès à tout prix, contre les likes, contre les réseaux sociaux. C'est un livre qui vous donne une sorte de courage fou et surtout vraiment beaucoup d'humour et d'esprit.
Et c'est chez
Anne Carrière.
Anne Carrière. Enfin, le conseil d'Arnaud.
Et un livre politique, parce que maintenant on parle de livres politiques au masque et la
plume. On avait parlé d'Aurélie Philippe et
Thierry. Oui. Mais là, c'est vraiment un livre sur Macron, par Marc Andevel, qui avait déjà écrit un livre qui s'appelait L'ambigu Monsieur Macron, qui était la première biographie finalement d'Emmanuel Macron, qui était sortie juste avant son élection. Et là, il poursuit finalement son enquête et s'appelle Le Grand Manipulateur, justement. Et donc, c'est sur les réseaux secrets de Macron, ceux qui lui ont permis à la fois d'être élu et ceux qu'il cultive depuis qu'il est élu. Il y a des personnages extrêmement formidables, notamment un certain Ludovic Schecker, que j'aime beaucoup parce que il a fait notamment créer ses réseaux politiques en Touraine. Ça me semble totalement impossible. Oui, il s'appelle Schecker en plus. Et donc là, et il y a un chapitre sur l'électricité que tous les Français devraient lire pour comprendre ce qui nous attend. Vraiment, lisez Marc Andevel, c'est un grand journaliste d'investigation à la Raphaël Baquet, Ariane Chemin, Marc Andevel, le grand manipulateur, et c'est chez Stock, comme le livre.
Encore chez Stock. Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Nelly Capriel-Lyon, Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian et Frédéric Becbédé pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir au Théâtre de l'Alliance Française à la Technique, et je les remercie, il y avait Bernard Laniel, Nicolas Depagraf et Jérémy Kaufmann. La réalisation était signée Xavier Pestugia, notez bien s'il vous plaît que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, qui continue comme tous les ans, tout l'été, aura lieu le jeudi 4 juillet. Ça sera au Théâtre de l'Alliance Française, au 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.